France Culture.
Talmudique. En 1935, Emmanuel Lévinas écrivait à propos de Maïmonide, à côté des recherches savantes qui situent un grand penseur au carrefour des influences qu'il a subies et de celles qu'il a exercées, il y a une place pour une question modeste mais grave, qu'est-il pour nous ? La valeur d'une vraie philosophie ne se place pas dans une éternité impersonnelle. Sa face lumineuse est tournée vers les êtres temporels que nous sommes. Sa sollicitude pour nos angoisses fait partie de sa divine essence. L'aspect véritablement philosophique d'une philosophie se mesure à son actualité. Le plus pur hommage qu'on puisse lui rendre consiste à la mêler aux préoccupations de l'heure. Celles de notre époque sont particulièrement poignantes. Elles concernent l'essence même de notre civilisation en tant que juif et en tant qu'homme. Pas un mot de cette citation ne doit être enlevé pour aborder l'œuvre et la personnalité de Richard Marion Strauss, que les éditions de l'Éclat mettent à l'honneur dans un triptyque de trois petits ouvrages qui nous font découvrir un homme et sa famille d'amis qui ont surgi en un temps et ressurgissent dans le nôtre comme des lumières bienfaisantes et apaisantes, des hommes et des femmes qui éclairent des chemins de pensée oubliés ou volontairement effacés, car n'entrant pas dans le cadre préfabriqué des idéologies toutes faites de la pensée simpliste et binaire, et qui pourtant sont d'une actualité vibrante et de circonstances. Sachons gré aux éditeurs de leur choix, un choix qui rassure et qui nous rappelle de manière vive qu'il est toujours possible de faire de nouvelles découvertes qui comblent l'esprit et lui offrent un plaisir et une joie bienvenue. Michel Valency, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Michel Valency, vous êtes avec Patricia Farazzi, au Rennes des éditions de l'Éclat, et c'est un très grand plaisir de vous retrouver à nouveau dans Talmudique pour évoquer le temps de deux émissions, l'œuvre de Richard Marion Strauss, dont il nous faut d'abord découvrir la biographie. Qui est Richard Marion Strauss, Michel Valency?
Bon, Richard Marion Strauss, c'est, disons qu'il y a plusieurs moments de sa biographie. Le plus classique, c'est un spécialiste de Shakespeare, c'est quelqu'un qui a étudié et écrit beaucoup sur Shakespeare. Mais le mot spécialiste, finalement, lui convient assez peu parce que c'est quelqu'un qui est aussi un écrivain. C'est-à-dire que son écriture est très exceptionnelle et très ouverte. Sa manière d'aborder Shakespeare et d'aborder l'œuvre de Shakespeare met en scène aussi des questions d'anthropologie, des questions philosophiques, des questions de poésie. Et c'est donc comme shakespearien, voilà, qui peut être connu. Mais il va diriger l'Institut d'anglais Charles V début des années 70. Il en deviendra le directeur en 86. Mais il a une autre biographie, comment dire, plus compliquée, comme il peut le dire lui-même. Il est né à Varsovie en 1928, le 18 janvier, donc sous le signe difficile du Capricorne. Et il va très vite quitter la Pologne. Enfin, sa mère, ses parents se séparent, sa mère l'emmène avec elle et ils vont gagner la France et il va commencer sa petite scolarité à Paris. Quand la guerre éclate, il va devoir donc quitter Paris et il gagnera le maquis du Vercors à l'âge de 15 ans, non pas pour combattre, mais pour accompagner finalement ce mouvement de résistance. Donc c'est un homme de la résistance, c'est un homme du combat. Il n'a plus de nouvelles de son père et c'est après la guerre où il va s'impliquer dans ce qu'on appelait le joint qui s'occupait des rescapés des camps. C'est à l'occasion donc de cette action au sein du joint qu'il apprendra la mort de son père, vraisemblablement au ghetto de Varsovie en 1943. Après cette période, il va mener une sorte de vie de bohème, en fait. Il étudie l'anglais, il va s'inscrire en lettres aussi à la Sorbonne. Et en 48, il décide de rejoindre la Haganah et de participer à la guerre d'indépendance d'Israël.
La Haganah, c'est-à-dire?
L'armée du Yishuv, c'est-à-dire les forces de l'État d'Israël naissant, quoi. Et il participera à cette guerre. Bon, c'est une expérience en demi-teinte. Il n'est pas sûr qu'il était entièrement convaincu par l'action qu'il pouvait faire sur place. C'est là qu'il va rencontrer un personnage dont il sera question beaucoup dans ces deux émissions, qui est Abraham Zemsch, qu'il appelle Abracha. Il faudra se souvenir de ce nom puisqu'il reviendra. Et donc là aussi, une nouvelle expérience de guerre, nouvelle expérience de combat. Et je crois que c'est un homme du combat. C'est un homme qui s'est battu pour ses idées, qui s'est battu pour son identité, d'une certaine manière, à laquelle il a toujours été extrêmement attaché, dans un flux de discussions et de débats pas toujours faciles à porter en même temps. C'est-à-dire, comment être un homme de la résistance et de la gauche, et en même temps être un juif à part entière. Et c'est à partir de là qu'il développera une idée de l'être juif en diaspora.
Le premier livre de Richard Marienstrass que vous publiez s'intitule « Texte de circonstances » tiré de « Être un peuple en diaspora » Maspero 1975. Ce livre « Texte de circonstances » comporte deux textes. Le premier s'intitule « Israël n'est pas négociable ». Le second « Un génocide dans le sens de l'histoire ». C'est donc une réédition de deux chapitres « D'être un peuple en diaspora » paru aux éditions Maspero en 75. Comment vous est venue l'idée de les republier, Michel Valency?
Être un peuple en diaspora, donc paru en 75, je crois que je l'ai lu l'année de sa parution, et c'est un livre que j'ai relu un grand nombre de fois. C'est vraiment un livre extrêmement important pour toute une génération, je crois. D'abord parce qu'il a suscité différentes polémiques, à la fois un enthousiasme et aussi une critique assez violente des institutions. Mais ce livre donc était composé d'un certain nombre d'articles. Il faut dire que le volume a été suscité par François Maspero, qui a quasiment demandé à Marienstrass d'écrire ce livre. C'est l'espièglerie diabolique de Maspero comme éditeur qui a voulu ce livre, puisque finalement, bon, Maspero, éditeur de la gauche, de l'extrême gauche, farouchement anticolonial, favorable finalement à la lutte du peuple palestinien, même si à l'époque on parlait pas encore du terme palestinien. Et Maspero glisse dans son catalogue « Être un peuple en diaspora » et sans qu'on s'en aperçoive, publie un texte qui s'appelle « Israël n'est pas négociable ». Mais ce livre-là donc a eu cette importance-là. Il a été réédité en 2014, donc 3 ans après la mort de Marienstrass, par sa veuve, Élise Marienstrass, qui est une historienne très connue, qui a beaucoup travaillé sur les mythes fondateurs des États-Unis d'Amérique et sur les populations autochtones, comme on dit, les peuples premiers. Élise Marienstrass, dans sa réédition, qui a paru aux éditions Les Prairies Ordinaires, avait voulu finalement poursuivre le questionnement de Marienstrass lui-même, en mettant à jour ce texte-là. C'est-à-dire qu'elle a rajouté un certain nombre de textes sur la question de l'identité. Et donc, rajoutant ces textes, elle en a supprimé quelques-uns, bon, qu'elle pouvait considérer comme soit dépassés, soit hors cadre, etc. Ont été supprimés 3 textes sur la littérature, et puis 2 textes dits de circonstances. La section était déjà intitulée « Textes de circonstances » dans le volume de chez Maspero. Et dans ces textes de circonstances, il y en avait 2. Vous avez donné les titres, Israël n'est pas négociable et un génocide dans le sens de l'histoire. J'ai voulu reprendre ce livre un peu par hasard parce que après les événements du 7 octobre, on était tous complètement bouleversés, on cherchait des pistes. On cherche des pistes pour comprendre. Enfin, comprendre, on comprendra pas, mais pour chercher, enfin, oui, pour continuer. Et j'ai repris un peu par hasard finalement, être un peuple en diaspora. C'est-à-dire que j'avais perdu mon exemplaire et j'ai donc racheté la réédition. Et puis j'ai vu qu'il manquait des choses. Et c'est en prenant conscience de ce vide, cette absence, je me suis dit, mais bon, c'est bizarre, ils ne sont pas là. Alors donc j'ai retrouvé le livre de la première édition de 75, et là j'ai été vraiment bouleversé. C'est-à-dire que ces textes-là, écrits en 1967-1968, l'un juste après la guerre des Six Jours, l'autre au cœur de la guerre du Biafra, me sont apparus d'une actualité sidérante. Sidérante. Et donc j'ai, non sans mal, je suis quand même arrivé à prendre contact avec Élise Marienstrass, qui m'a reçu très très gentiment, très aimablement, à qui j'ai expliqué le projet. L'idée était peut-être de rééditer le livre dans sa version complète. Puis ensuite l'idée est née de la réédition simplement de ces articles manquants, de ces articles écartés, oubliés, effacés. Et c'est vrai que quand Élise Marienstrass a relu ces textes, comme moi, elle s'est rendue compte à quel point ces textes étaient forts et importants. Et comme moi, comment ces textes pouvaient aujourd'hui nous parler, comment dire, à la première personne véritablement. Et c'est comme ça que le projet est né.
Donc ces 2 articles peuvent se lire de manière indépendante, puisqu'ils sont 2 circonstances, mais leur écrin premier, fut, comme vous l'avez dit, l'ouvrage « Être un peuple en diaspora » de 1975. Quelle est la thèse principale de Marienstrass, Michel Valency ?
Comme je l'ai dit, c'est un livre important. C'est un livre important pour une génération de jeunes hurluberlus nourris d'universalisme et d'internationalisme et qui, non pas malgré tout, mais portait également un questionnement sur l'être juif. Qu'est-ce que ça voulait dire être juif dans ce cadre quoi universel et international. La question d'Israël venait se loger finalement dans cette interrogation. Et est-ce que étant internationaliste, on pouvait penser à l'idée d'un État-nation, enfin un autre État-nation encore? Est-ce qu'il n'y en avait pas trop, finalement, déjà, des États-nations? Et quand le livre est sorti, c'était une sorte de Bible pour un grand nombre de personnes, parce que ça réconciliait, finalement, ça réconciliait avec notre être juif en diaspora, être un peuple en diaspora, sans pour autant remettre en question l'existence de l'État d'Israël et la nécessité de l'État d'Israël. C'est ce que dit Gershom Scholem à Benjamin dans une lettre de 1931, je crois, ou 36, où il dit... La Palestine, enfin la Palestine, lui il appelait la Palestine à l'époque, la Palestine est nécessaire et ça me suffit, cette question de la nécessité. Et je crois que c'est une phrase qu'aurait pu reprendre Marienstrass à ce moment-là.
C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est qu'il y avait à l'époque des antisionistes et des sionistes, mais pour Marienstrass, il y a en fait une sorte de double cœur. C'est-à-dire qu'à la fois Israël est nécessaire, mais... contre un sionisme radical qui pense que tous les juifs doivent être en Israël, il considérait qu'il y avait aussi un peuple juif, un peuple en diaspora, avec ses valeurs, avec sa culture, qui devait continuer à approfondir cette identité diasporique sans considérer que c'est un exil.
Bien sûr, c'est exactement. Et c'est surtout une sorte de vraie complémentarité, c'est-à-dire que cet être juif prenait une double dimension, finalement. À partir de la création de l'État d'Israël, il y avait une sorte d'enrichissement mutuel, si vous voulez, des deux êtres, quoi. C'était un peu ça, cette idée. Et c'est pour ça que ce livre a été perçu très fortement par un certain nombre de jeunes. En pointant cette idée de l'être un peuple en diaspora, il a ouvert, il a permis que les littératures de la diaspora s'expriment. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, finalement, que commencent des récits sur les différentes diasporas. C'est à ce moment-là aussi que renaît la question du yiddish, de la littérature yiddish. Bon, ce mouvement avait été, annoncé par les ouvrages d'Albert Memmi, par exemple, pour ce qui concerne l'histoire et la littérature des juifs en terre d'islam. Je crois qu'à son tour, Marienstrass a poursuivi finalement ce qu'avait introduit Memmi. D'ailleurs, dans « Être un peuple en diaspora », il y a trois articles sur la littérature. Il y a un article sur « Le dernier des justes », un article sur Bernard Malamud, et puis un article sur Albert Memmi, sur « Portrait d'un décolonisé ».
Mais il faut comprendre, pour pouvoir apprécier sa thèse, c'est que à un certain moment, une forme de sionisme faisait croire, d'un point de vue idéologique, que les juifs en diaspora n'étaient pas à leur place.
Exactement.
Et qu'ils devaient, comme on dit, monter en Israël pour grossir les rangs de ce peuple qui devenait, comme vous venez de le dire, un État-nation. Alors que sa thèse, qui est peut-être aujourd'hui, peut-être déjà quand même acceptée et comprise, peut-être qu'aujourd'hui on est déjà beaucoup plus dans cette compréhension du peuple juif en diaspora, qui a une réalité, je dirais presque ontologique, d'être en exil, parce que il dit que la majorité du temps, le peuple juif s'est constitué en exil, il a vécu en exil, mais là c'est plus en exil, parce que l'exil est une dimension négative, on pourrait dire, et presque pathologique d'un point de vue politique, mais être un peuple en diaspora est quelque chose de positif. Exactement. De fécond et de constructif.
Oui, c'est ça sa thèse. C'est cette valorisation de l'exil, finalement. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi un peu partout, y compris même chez des gens comme Scholem, qui a pu se considérer en exil en terre d'Israël, si vous voulez. Continuer, finalement, une sorte d'exil.
Et alors, c'était pas simplement un combat pour la diaspora juive, mais un combat pour les minorités en général.
Exactement.
À la fois pour les Arméniens, les Tziganes, etc. Pour dire qu'il peut y avoir une identité. Il utilise le terme de nationalitaire.
Exactement.
C'est-à-dire une nation, mais qui n'est pas un État-nation, dans un État-nation, qui n'est pas justement un nationalisme.
Oui, effectivement, c'est ce terme qui est un terme étrange parce qu'en fait, il a été forgé par Maurras, donc on marche sur des œufs, quoi. Mais effectivement, cette idée de nationalitaire, c'est l'idée d'un nationalisme qui est associé à une communauté, associé aussi à quelque chose de révolutionnaire, finalement. C'est un nationalisme qui s'oppose au colonialisme, qui s'oppose à l'impérialisme. C'est ça qui fait sa valeur, finalement. Et c'est toute la question des minorités, enfin, de ce qu'il appelle la vocation minoritaire, quoi.
Ereshit ayu shamayim Ereshit hayam kachol Ereshit ayu liyom valayla Layla shorot arbe kachol Ereshit hayta Hifshila pri ad erev, erev, tutim vegargirim.
Bereshit, c'est le nom de cette chanson par Dikla et Zehava Ben, deux chanteuses israéliennes de variété, l'une originaire d'Irak et d'Égypte, Dikla, l'autre d'origine marocaine, Zehava Ben, née toutes deux à Be'er Sheva à la fin des années 60. La chanson qu'on est en train d'écouter est un tube de 1973 écrit par Ehud Manor, reprise ici par ces deux chanteuses qui, dans votre esprit, Michel Valency, c'est la confidence que vous m'avez faite, incarne la formule de Marianne Strauss, Israël n'est pas négociable, qui est le titre du premier article que vous publiez dans ces textes de circonstances. En quoi Michel Valency, ces chanteuses, incarnent cet Israël n'est pas négociable?
Alors, bon, c'est une sorte de clin d'œil que j'ai voulu aussi faire à cette musique que j'écoute en boucle quand je fais de la mise en page, comme ça. Dans ce texte, Israël n'est pas négociable, de Marianne Strauss, il y a un passage extrêmement intéressant et extrêmement fort. Il faut bien se rendre compte que c'est un texte qui était qu'en 1967, que la question du, enfin, ce qu'on a appelé le second Israël, selon la formule de Shmuel Trigano, n'était pas encore tellement perçue par le public occidental. Le volume de Trigano est de 79.
Qu'est-ce qu'il appelle le second Israël?
C'est la population des Juifs de terre d'Islam, qui vont constituer la très grande partie du pays à partir de la fin des, enfin, oui, de ces années-là. Je vais lire ce texte de Marianne Strauss parce qu'il est vraiment très éclairant et je crois très important. Marianne Strauss écrit « Or, le fait est qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population juive d'Israël est originaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le sionisme s'est donc révélé efficace non seulement pour rendre son être politique à une petite partie de la population juive occidentale, mais aussi à la plus grande partie de la population juive du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'on voit ici que l'idée selon laquelle l'islam serait innocent de la situation faite aux juifs au cours de leur exil doit être révisée. Sans doute, la tolérance musulmane fut assez grande pour permettre à des communautés juives de vivre en son sein, mais à titre justement de communautés tolérées. Ainsi, certains hindous aiment leurs parias et conçoivent difficilement une société d'où les parias seraient exclus. C'est l'islam qui a inventé la rouelle. Il a interdit aux juifs de porter les armes et pris toutes sortes de mesures discriminatoires à leur encontre. Quant aux pogroms et aux conversions forcées, ce ne sont pas des pratiques inconnues des Arabes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette existence, cette non négociable de l'existence d'Israël fait que ça a été effectivement le lieu pour une très grande partie de la population juive du monde, et pas seulement que les occidentaux, d'avoir une terre, de vivre une terre, si vous voulez. Et cette présence de cette population issue des pays du Moyen-Orient et de la terre d'Islam, comme on dit, je crois, rend Israël non négociable. Peut-être aujourd'hui encore plus.
Oui, parce qu'il faut expliquer que après la guerre de 48, enfin après la création de l'État et la guerre israélo-arabe qui est née tout de suite en 48, les Juifs qui habitaient en terre d'islam ont été mis dehors.
Oui, c'est-à-dire il n'en reste quasiment plus. Les populations de la plupart des pays musulmans sont partis. Bon, on ne sait jamais. Disons, il y a toujours des bonnes raisons de partir. Et finalement, chaque pays a eu son mode d'expulsion. Ça n'a pas été aussi radical qu'en Espagne en 1492. Dans certains pays, il y a eu une sorte d'identification de la population juive à l'occupant colonial dans des conditions. Enfin, toujours très étrange, mais bon, je parle peut-être de l'Algérie. L'Algérie a peut-être, la population des Juifs d'Algérie sont peut-être partis avec les Français, comme on dit. Mais c'est pas le cas, ni des Irakiens, ni des... Bon, les Égyptiens, je crois qu'il y a un départ. Dans un très court laps de temps, ils sont tous partis. Bon, sans parler de la Syrie, où il en restait une dizaine, etc. Et donc, effectivement, toute cette population, où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? On a, comme disait Léo Strauss, les Allemands avaient un problème avec les Juifs et il y avait un problème juif en Allemagne. Ils ont décidé de supprimer non pas le problème mais les Juifs. Bon, ça pouvait peut-être pas se faire partout et donc cette population est retournée à sa terre comme elle est retournée à son histoire et sa culture. Et c'est pour ça que quand j'écoute Dikla et Zahav Ben, qui sont des chanteuses de variété, enfin je veux dire, c'est quelque chose de commun, de quotidien finalement, cette musique qu'on écoute en tournant la radio, quoi. Et ça, c'est une preuve d'existence et c'est une preuve de la nécessité de cette existence.
Alors, on va passer au deuxième article de ces textes de circonstance qui s'intitule « Le génocide dans le sens de l'histoire », un article qui concerne ce moment de la guerre entre le Biafra et le Nigeria, entre 67 et 70. De quoi parle cet article et pourquoi Michel Valency avoir tenu à le republier?
Alors, c'est un article fort important. Il a une dimension d'une ironie extrême. C'est-à-dire que quand on le lit, et si on le lit au premier degré, on ne comprend pas. Quel est le problème? Le problème est un problème de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on est en situation de guerre. Et dans cette situation de guerre, entre une petite population minoritaire, les Igbos du Biafra, qui font sécession du Nigeria pour créer une république autonome. Bon, tout ça parce qu'il y a aussi du pétrole sur place.
Il faut préciser qu'ils sont chrétiens.
Oui, alors ils sont chrétiens. Bon, ils sont chrétiens. Il y a même une toute petite communauté juive chez les Igbos. Mais c'est bon, oui, c'est un des enjeux. Mais c'est surtout un enjeu économique. Cette guerre est déclenchée, les Nigérians encerclent le Biafra et vont pratiquer une politique de famine extrême que le monde entier a vu. Je crois que c'est Kouchner qui disait que c'est la première famine télévisée au monde. Et il y a aussi ce terme de génocide qui va apparaître. Génocide qui sera revendiqué par une certaine partie des intellectuels et politologues et politistes, comme on dit, qui s'intéressent à la question, mais qui sera nié par d'autres, et en particulier par la gauche française. Tout ça pourquoi? Parce que finalement, le Nigeria est soutenu par l'Union soviétique, tandis que le Biafra est soutenu par les Portugais, qui est un pays fasciste à l'époque, et puis différents pays. Je vais peut-être lire un tout petit extrait de ce...
Alors, ce qui est intéressant, juste avant peut-être cet extrait, c'est que on sait aujourd'hui, en tout cas, Jacques Foccart, un politicien très important à l'époque, fait remarquer à propos de ce conflit, je cite, « Les journalistes ont découvert la grande misère des Biafrais, c'est un bon sujet, l'opinion s'émeut et le public en demande plus. Nous facilitons bien sûr le transport des reporters et des équipes de télévision par des avions militaires jusqu'à Libreville et de là par les réseaux qui desservent le Biafra. » Fin de citation. Et dans son livre paru en 2007, intitulé « L'image télévisuelle comme une arme de guerre », sous-titré « Exemple de la la guerre du Biafra, Barbara Young écrit « L'agence de publicité Marc Presse à Genève mena pendant 17 mois une campagne de presse comportant plus de 500 articles et donnant une place centrale au thème du génocide par la faim. Et comme le précise le même Jacques Faucard, le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, fut directement impliqué dans cette campagne. Je cite « Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le terme de génocide appliqué à cette affaire du Biafra a été lancé par les services secrets. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre ou d'écrasement, mais génocide nous a paru plus parlant. » Et le colonel Maurice Robert, responsable du SDEC, durant la guerre du Biafra, précise encore « Nous avons communiqué à la presse des renseignements précis sur les pertes biafraises et avons fait en sorte qu'elles reprennent rapidement l'expression génocide. Le Monde a été le premier, les autres ont suivi. »
Oui.
C'est quand même très très étonnant.
Oui, c'est très étonnant et c'est aussi pourquoi ce texte est extrêmement intéressant. C'est parce que le sujet finalement de ce livre, bon, c'est effectivement la question de la guerre du Biafra et la question du génocide, mais c'est surtout la question de comment un terme va s'infiltrer finalement dans des stratégies politiques et comment est-ce qu'il va imposer finalement une image des belligérants, enfin de la situation, qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Ce que vous dites de ce que raconte Faucard en est la preuve, c'est-à-dire qu'effectivement ce terme à un moment donné est utilisé. Et d'une certaine manière, Marielle Strauss est dupe de cet usage du terme puisqu'il va revendiquer ce terme de génocide pour la population du Biafra. On va pas glisser sur l'actualité.
Ce qui est important, c'est de rappeler que ce dont on parle est un article de 1967.
Exactement.
Ou 1968.
Voilà,
donc,
voilà.
Je crois qu'il y a ici une réflexion linguistique sur Exactement. Les enjeux de termes.
Du langage.
Et
du
comme
langage
dit aussi Barbara Young, c'est-à-dire le langage comme arme de guerre.
Oui.
Alors, le texte que vous vouliez nous lire.
Voilà, le petit texte que je vais vous lire, qui est donc fait partie de ce volume, c'est ainsi. Les pays islamiques, par définition, ne peuvent commettre de génocide. Ce qui se passe au Soudan n'est pas digne d'attention. Ils ne peuvent non plus violer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'affaire kurde, on est en 1968, par définition, se situe hors de la compétence de la pensée progressiste. Les autres pays du tiers-monde verront leur aptitude au génocide déterminée d'avance par leur alignement. Ainsi, le Nigeria, qui reçoit des armes de l'Égypte, pays islamique, et de l'URSS, pays communiste, ne peut commettre de génocide, tandis que le Biafra qui reçoit des armes du Portugal, pays fasciste, et une aide d'Israël, pays germano-américano-impérialiste et sioniste, est éminemment suspect de propension au génocide, de sorte que s'il est lui-même génocidé, c'est là où je parle de l'ironie extrême de ce texte, ce n'est qu'un juste retour des choses. Je pensais que ce texte avait son importance parce qu'il pointait comment fonctionne le langage, comment est-ce que le langage va pouvoir orienter. En 1968, c'était 2 télévisions, 4 journaux et 5 radios. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui transmet des informations et un langage qui n'est pas conforme à la réalité. Enfin, il me semblait important de l'associer.
Un langage, en tout cas, qui n'est pas suffisamment interrogé par rapport à la réalité.
Exactement.
Alors, on a dit qu'on
est... Ce qui n'ôte rien à l'horreur des massacres, à l'horreur qu'est la guerre.
Mais ce que je me suis demandé, Michel Valency, si on ne peut pas comprendre l'essentiel du propos de Marielle Strauss en parlant du Biafra, à côté du fait de parler d'Israël, si ce n'est pas l'idée de garder le regard éveillé sur le monde en général, d'élargir le champ du regard et avoir, comme dit le titre du livre dont nous parlerons la semaine prochaine, une optique cohérente, c'est-à-dire justement quelque chose de beaucoup
ouvert.
Plus pensé, beaucoup plus ouvert, un petit peu comme disait Camus, que penser c'est réapprendre à voir. Et peut-être que penser ici, c'est justement ne pas s'enfermer dans un regard qui serait uniquement tourné vers Israël,
oui.
Comme si cette problématique venait phagocyter toutes les autres problématiques et tous les autres regards sur le monde. Et que ce que fait Marielle Strauss, au-delà de l'ironie qu'il va user pour soit dénoncer l'usage du terme de génocide ou du mésusage de son terme, c'est de dire qu'il faut élargir la focale sur quelque chose de beaucoup plus universel.
Et je crois que c'est justement la grandeur de ce texte, Être un peuple en diaspora, qui s'ouvre par un article intitulé « Réflexion sur le génocide », qui est une réflexion sur le génocide des Juifs par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qui se termine effectivement sur cette question du génocide qui a eu lieu au Biafra. Le livre est vraiment, même s'il a été reconstitué à partir d'articles, il y a une véritable trajectoire de pensée. On en extrait deux pépites qui me semblent importantes, disons, pour que l'édifice que constitue cet ouvrage soit présent, enfin soit lisible aujourd'hui dans sa totalité. Et je crois que là aussi, Élise Marie-Schras était très reconnaissante à notre égard quand on a pris cette décision de republier ces textes et de compléter finalement, de donner la possibilité de lire l'ensemble de « Être un peuple en diaspora », en se souvenant que quand on le lisait en 75, on ne lisait que le mot « diaspora ». Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que dans ce titre, il y a le mot « peuple ». Et que c'est cette idée de peuple qui est tout aussi importante pour Marianne Schras.
C'est-à-dire
que on en est arrivé à une situation où l'idée même de peuple juif est remise en question. Et c'est vrai que ce texte-là est aussi une réponse à ce révisionnisme de la pensée qui a commencé à se développer il y a quelques années. Il y a bien des gens qui ont dit que les morts des camps de concentration, c'était une grosse épidémie de typhus.
Ou un détail.
Oui. Plus tard.
Merci Michel Valency pour cette conversation importante et passionnante que je vous invite à poursuivre la semaine prochaine. Je rappelle le titre du livre de Richard Marienstrass que vous venez d'éditer, préfacé et annoté. Texte de circonstance tiré de Être un peuple en diaspora. C'est aux éditions de l'Éclat. Merci encore Michel Valency.
C'est moi qui vous remercie et à la semaine prochaine.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, José Bernays. À la réalisation, Hélène Trigueros. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.